Section 4. Le champ d'évangélisation le plus proche. Les membres d'église doivent faire un travail missionnaire dans les maisons de leur entourage, où la vérité pour notre époque n'est pas encore connue. Ce travail d'amour, de maison en maison, est en harmonie avec les instructions données par le Seigneur à ses disciples quand il les envoya pour la première fois annoncer la bonne nouvelle. Par le chant de cantiques, d'humbles et ferventes prières, une simple présentation des vérités bibliques dans les familles, bien des âmes seront sauvées. Les messagers célestes seront présents pour convaincre les cœurs. Je suis avec vous tous les jours, telle est la promesse qui nous est faite. Travaillons donc avec persévérance, foi et courage. Chers frères et sœurs, consacrez-vous au service du Seigneur. Visitez vos voisins. Par la sympathie et la bonté, efforcez-vous de gagner les cœurs. Visitez les malades, ceux qui souffrent, témoignez-leur de l'intérêt. Si vous le pouvez, rendez-leur la vie plus facile. Vous leur inspirerez ainsi confiance et vous aurez l'occasion de leur parler du Christ. Seule l'éternité révélera ce que peut accomplir un tel travail. Chapitre 9. Différents aspects de l'évangélisation de notre voisinage. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Une grande œuvre attend nos églises. Très peu de croyants ont une idée de l'œuvre qui incombe à nos églises. Nous devons pourvoir au soutien de nos ouvriers évangéliques dans le grand champ de la moisson et nous réjouir des gerbes qu'ils réunissent. Mais, à part cela, il reste encore une œuvre à accomplir qui n'a pour ainsi dire pas été amorcée. La mission du Christ consistait à guérir les malades, encourager les désespérés, relever les cœurs brisés. Il faut poursuivre cette tâche. Dieu réclame non seulement votre bienveillance, mais encore votre sympathie, vos mots d'espoir, votre poignée de main. Il y a des affligés à consoler, des malades à guérir, des malheureux à secourir, du soleil à apporter dans les cœurs. Il y a des gens qui ont perdu courage. Offrez-leur quelques paroles d'espoir, priez pour eux. Lisez-leur la parole de Dieu. Il y a une maladie de l'âme qu'aucun baume, aucun médicament ne saurait soulager. Priez pour ces personnes, faites-leur connaître Jésus-Christ. Le Sauveur vous assistera et fera impression sur le cœur des hommes. Visitez chaque famille et enquérez-vous de leurs conditions spirituelles. Partout où une église est organisée, tous ses membres devraient s'engager dans une activité missionnaire, visiter chaque famille de leur entourage et connaître leurs conditions spirituelles. Si tous ceux qui se disent chrétiens avaient entrepris cette œuvre, lorsque leurs noms ont été inscrits sur les registres de l'Église, on ne verrait pas tant d'incrédulité, d'iniquité et de méchanceté comme on en voit aujourd'hui dans le monde. Si chaque membre d'Église avait cherché à éclairer ses semblables, des milliers de personnes se seraient jointes au peuple qui garde les commandements de Dieu. Les résultats de cette négligence dans le travail missionnaire ne se constatent pas seulement dans le monde. On les observe aussi dans l'Église, où il existe un état de choses qui a éclipsé l'intérêt que l'on devrait porter à l'œuvre de Dieu. Il y règne un esprit de critique et d'amertume, et le discernement spirituel d'un grand nombre a été obscurci. C'est la raison pour laquelle la cause de Dieu a tellement souffert. Les intelligences célestes ont attendu la collaboration des agents humains, mais nous n'en avons pas discerné la présence. Il est urgent aujourd'hui de nous repentir. Tout le peuple de Dieu doit s'intéresser à l'œuvre de la bienfaisance. Que les cœurs et les âmes s'unissent afin de faire un sérieux effort pour élever et éclairer ceux qui se perdent, à la recherche de ceux qui écouteront. Il y a quelques années, je visitais le sud des États-Unis. Au cours d'un long déplacement, je demandais qui occupait les maisons que nous voyions. On m'apprit que dans beaucoup d'entre elles habitaient des hommes qui remplissaient de hautes fonctions dans la gérance de grands domaines. On me dit encore que personne n'avait jamais rien entrepris pour leur faire connaître la parole de vie. Personne n'était venu les trouver avec la Bible pour leur dire « Nous possédons quelque chose de précieux dont nous aimerions vous entretenir ». Il m'a été montré maintes fois qu'un travail de ce genre devait s'accomplir. Il faut que nous allions dans les chemins et le long des haies, porter le message de vérité que le Christ nous a confié. Contraignez-en un grand nombre à entrer. Amenez des âmes au Christ. Que de gens ont perdu tout espoir. Ramenons le soleil dans leur cœur. combien d'autres sont découragés. Adressons-leur des paroles de réconfort, prions pour eux. D'aucuns ont besoin de recevoir le pain de vie. Lisons-leur la parole de Dieu. D'autres sont tourmentés, ils ne peuvent recevoir aucun baume terrestre, et nul ne saurait les soulager. Amenons ces âmes en détresse à Jésus. Disons-leur qu'il existe un baume et un docteur en Galaad. Travaillez pour toutes les classes. Partout il y a une œuvre à accomplir en faveur de toutes les classes de la société. Occupons-nous des pauvres et des miséreux, de ceux qui sont victimes de l'intempérance, sans oublier la classe plus élevée, les avocats, les ministres, les députés, les magistrats. N'épargnons aucun effort pour leur faire comprendre que leur âme vaut la peine d'être sauvée, que la vie éternelle est un bien désirable. Appelé à différentes manières de servir, le Seigneur nous appelle à servir de différentes manières. Nous n'accomplissons qu'une toute petite partie du travail que Dieu veut nous voir faire parmi nos voisins et nos amis inconvertis. En montrant de la bonté à l'égard des pauvres, des malades, des affligés, nous pouvons avoir sur eux une influence qui permettra à la vérité divine de faire son chemin dans leur cœur. Prenons garde de ne pas négliger de telles occasions. C'est là le travail missionnaire le plus important que nous puissions accomplir. La présentation de la vérité de maison en maison avec amour et sympathie est en harmonie avec les instructions du Christ à ses disciples lorsqu'il les envoya pour la première fois prêcher l'Évangile. Secourez l'humanité à l'instar du Christ. Il, le Christ, passait par les villes et les villages tel un courant vivifiant, répandant la vie et la joie. Les disciples du Christ sont appelés à travailler comme il l'a fait. Nous devons nourrir ceux qui ont faim, vêtir ceux qui sont nus et consoler ceux qui souffrent, ceux qui sont affligés, nous occuper de ceux qui désespèrent et leur rendre l'espérance. L'œuvre qui incombe à chaque membre d'Église, recueillir les malheureux et les opprimés, prendre soin des malades et des indigents, voilà l'œuvre même à laquelle devrait se livrer depuis longtemps chaque Église qui prétend croire à la vérité évangélique pour notre époque. Nous devons faire preuve d'une sympathie aussi tendre que celle du bon samaritain, en subvenant aux besoins physiques des malheureux, en donnant à manger à ceux qui ont faim, en abritant dans nos foyers les malheureux sans asile, et en puisant en Dieu, jour après jour, les forces et la grâce qui nous permettront de pénétrer jusque dans les bas-fonds de la misère humaine pour venir en aide à ceux qui ne peuvent d'eux-mêmes en sortir. Ce travail nous fournira une occasion favorable de faire connaître le Christ crucifié, ce que les sermons ne sauraient faire. Par un travail personnel, allez chercher les gens là où ils sont, faites leur connaissance. L'œuvre que nous accomplissons ne peut se faire par procuration, ni en prêtant ou en donnant de l'argent. Les sermons prononcés en chair ne sont pas suffisants. Groupe de chanteurs. Il y a une puissance dans le chant. Les étudiants qui s'exercent à chanter des chants évangéliques peuvent faire beaucoup de bien. Ils auront ainsi de nombreuses occasions d'employer leurs talents musicaux pour apporter un peu de soleil dans de nombreux endroits solitaires et assombris par la tristesse et l'affliction. Les étudiants doivent aller dans les chemins et le long des haies afin d'atteindre les plus déshérités comme la classe la plus élevée. Qu'ils pénètrent dans les maisons du riche et du pauvre et qu'ils leur demandent s'ils pourraient leur chanter quelques cantiques. Puis, lorsque les cœurs se seront attendris, ils pourront prononcer une prière pour demander la bénédiction du ciel. Il en est peu qui refuseront de les écouter. Il y a là un véritable travail missionnaire. Un vaste champ de services pratiques. Il existe un vaste champ missionnaire pour les femmes comme pour les hommes. La cuisinière, la couturière, l'infirmière peuvent toutes se rendre utiles. Apprenez aux pauvres comment faire la cuisine, comment confectionner leurs vêtements, soigner les malades, tenir leur ménage. Même les enfants peuvent apprendre à faire quelques commissions pour ceux qui sont moins favorisés qu'eux. On peut encore rendre des services d'un autre genre. Ce dont on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas de savants et éloquents orateurs, mais d'humbles chrétiens, hommes et femmes. Travaillez avec désintéressement, avec amour et patience, pour tous ceux que vous approchez. Ne soyez pas impatients, ne prononcez aucun propos méchant. Que l'amour du Christ soit dans votre cœur, la bonté sur vos lèvres.
Employez les jours fériés à travailler pour le Seigneur. Voici encore d'autres genres de services.
certains sont capables d'expliquer les Écritures et de communiquer à d'autres ce qu'ils croient. Il y a là un moyen d'apporter un précieux réconfort à de pauvres âmes découragées, qui semblent ne pouvoir saisir l'espérance et la foi. D'autres se demandent comment il leur serait possible de se rendre utile. Si leur travail les absorbe tous les jours de la semaine, sauf le dimanche et les jours fériés, au lieu d'employer ces jours à leur propre plaisir, qu'ils les mettent au service du Seigneur. Leur exemple stimulera leurs frères à faire quelque chose à la gloire de Dieu. Écoutez ces paroles inspirées de l'apôtre. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ainsi qu'un principe divin vous animera dans vos activités de la vie quotidienne. Être bon, faire le bien. » Tous ne peuvent pas donner tout leur temps au travail missionnaire, leurs occupations ne le leur permettant pas, mais qu'ils emploient les jours fériés à faire quelque chose pour le Seigneur, s'ils ne peuvent donner beaucoup d'argent pour la cause. Les heures si souvent passées à des amusements et ne procurant aucun repos pour le corps ni pour l'âme devraient être employées à rendre visite aux malades et à ceux qui souffrent, ou à s'efforcer de venir en aide à celui qui est dans le besoin. Le ministère de la bienfaisance le jour du sabbat. Selon le quatrième commandement, le jour du sabbat doit être consacré au repos et au service religieux. Tout travail séculier doit donc être interrompu, mais on peut accomplir ce jour-là des œuvres de miséricorde. Ni le moment, ni le lieu ne les limitent. Soulager les affligés, consoler ceux qui pleurent, voilà une œuvre d'amour qui honorera le Seigneur et son saint jour. Ancienne méthode à renouveler. Que tous ceux qui sentent reposer sur leurs épaules le fardeau des âmes qui se perdent se rendent de maison en maison pour expliquer la parole de Dieu, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là, conduisant graduellement leurs auditeurs à la pleine lumière de la vérité biblique. C'est ce qui a été fait au premier jour du message. Lorsque des efforts sérieux sont tentés, le Seigneur répand sa bénédiction sur les ouvriers et sur ceux qui cherchent à comprendre la vérité telle qu'elle est contenue dans la Bible. L'Écriture sainte renferme de précieuses et de glorieuses vérités. Notre privilège consiste à les faire connaître au monde. Allons trouver ceux qui ne peuvent assister à des conférences, en raison de la distance, et présentons-leur la vérité dans toute sa simplicité. Quelle lumière se dégage de la parole ! Nous lisons dans Ésaïe : « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève la voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités. » Notez l'expression « mon peuple ». Pourquoi le prophète dit-il « mon peuple » ? À ce moment-là, les Israélites étaient loin de se conformer à la lumière de la vérité. Mais Dieu voulait les sauver de leurs péchés. La vérité devait leur être rappelée dans toute sa simplicité. Le message du troisième ange doit être proclamé à toute nation, et le Christ a déclaré qu'il devait retentir jusqu'aux extrémités du monde. « Crie à plein gosier, ne te retiens pas », recommande-t-il. Il faut donc faire connaître partout la vérité telle qu'elle est révélée dans la parole de Dieu, soit en public, soit de maison en maison. N'attendez pas que les âmes viennent à vous. Nous ne devons pas attendre que les âmes viennent à nous. Il faut aller les chercher là où elles se trouvent. Quand le prédicateur descend de la chair, son travail ne fait que commencer. Des multitudes de gens ne seront jamais touchés par l'Évangile si nous n'allons pas le leur annoncer chez eux. Travaillez de maison en maison, sans oublier les pauvres. Le Christ a dit « Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous devons aller et faire de même. Je suis perdu et vous ne m'avez pas averti. Allez dans les maisons de ceux qui ne manifestent aucun intérêt pour la vérité. Alors que la douce voix de la miséricorde invite le pécheur, employez toutes les ressources de votre cœur et de votre cerveau, comme le fit l'apôtre Paul, qui ne cessait d'avertir chacun, nuit et jour, dans les larmes. Au jour du jugement, ils seront nombreux ceux qui nous diront « je suis perdu, et vous ne m'avez jamais averti, vous ne m'avez jamais parlé du retour de Jésus. J'aurais cru comme vous, et j'aurais averti mes semblables avec prière et avec larmes de ce qui allait se produire. » Influence du travail missionnaire sur notre vie spirituelle. Visitez vos voisins, faites-vous-en des amis. Ceux qui ne prennent pas part à cette œuvre, qui sont indifférents, perdront bientôt leur premier amour et se mettront à critiquer et à condamner leurs frères. L'œuvre n'est ni ennuyeuse ni sans intérêt. Tous ceux qui sont en communion avec Dieu trouveront de nombreuses occasions de travailler pour lui. Ceux qui s'en vont dans l'esprit du Maître, s'efforçant de gagner des âmes à la vérité, ne considéreront pas leurs efforts pour attirer les âmes au Sauveur comme une corvée pénible et désagréable. Ils sont les vignerons de Dieu, et ils recevront une vie de plus en plus abondante à mesure qu'ils se consacreront au service de Dieu. C'est un bonheur que d'expliquer les Écritures. Faites des heureux, soyez joyeux selon le Seigneur. Le Christ est la lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Prenez l'habitude de louer Dieu. Faites des heureux, c'est là votre premier travail. Il affermira les meilleurs traits de votre caractère. Ouvrez toutes grandes les fenêtres de votre âme vers le ciel, et laissez-y pénétrer le soleil de justice, le matin, à midi et le soir, afin que votre cœur soit rempli des brillants rayons de la lumière céleste. Faites revivre l'esprit missionnaire de 1844. Récemment, pendant les veilles de la nuit, le Saint-Esprit a fait impression sur moi, et je me disais que si le Seigneur revenait aussitôt que nous le voudrions, nous devrions être plus actifs qu'au cours des années écoulées, en proclamant la vérité. Je revis alors en esprit les activités des croyants adventistes de 1843-1844. À cette époque, on faisait beaucoup de visites de maison en maison pour avertir les gens des événements dont parlait la parole de Dieu. Nous devrions arriver à faire davantage encore que ceux qui proclamaient le premier message si fidèlement. Nous approchons rapidement de la fin de l'histoire de la terre, et si nous étions vraiment persuadés que le Seigneur va revenir bientôt, nous travaillerions comme nous ne l'avons jamais fait. Notre devoir est de donner le signal d'alarme. Faites de nouveau ce travail, en allant, comme les disciples, de lieu en lieu, pour faire connaître l'amour du Sauveur, vous vous ferez des amis, et vous verrez le fruit de vos travaux. Tous les véritables, humbles et fidèles ouvriers du Seigneur seront soutenus et affermis par la puissance d'en haut. Ils gagneront les cœurs en suivant l'exemple du Christ. Les malades seront soignés, les affligés consolés. On entendra des chants et des prières. Les Écritures seront lues pour témoigner de la vérité, et le Seigneur confirmera par des signes ce qui aura été dit. Cette manière de travailler est passée de mode. Remettons-la en pratique. Les champs blanchissent et sont prêts pour la moisson. Le Seigneur réclame plus de moissonneurs. Il sera avec ceux qui étudient la parole de Dieu et obéissent à ses commandements. Il leur donnera sa grâce. Allez au nom du Christ, en vous souvenant qu'il est votre compagnon et qu'il entend chaque prière, chaque mot que vous prononcez, chaque cantique que vous chantez. Le message de la venue prochaine du Christ avec puissance et grande gloire apportera la conviction dans bien des cœurs. Chapitre 10. La bonté, la clé qui ouvre les cœurs. Beaucoup de gens ne peuvent être gagnés que par la bonté et par l'amour. Ceux qui vont de maison en maison trouveront de nombreuses occasions de faire le bien. Ils prieront pour les malades et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour soulager la souffrance. Ils devront s'occuper des humbles, des pauvres et des opprimés, intercéder pour ceux qui manquent de volonté et ne peuvent contrôler leur appétit dégradé par la passion. Il faudra faire des efforts tenaces et persévérants pour le salut de ceux dans le cœur desquels un intérêt pour la vérité a été éveillé. Beaucoup ne seront gagnés que par des actes de bonté désintéressés. Il faudra pourvoir en premier lieu à leurs besoins physiques. Grâce à l'amour que vous leur témoignerez, il leur sera plus facile de croire à celui du Seigneur. Les infirmières missionnaires sont les mieux qualifiées pour ce genre de travail, mais d'autres sœurs peuvent se joindre à elles. Celles-ci, bien que n'étant pas spécialement formées comme infirmières, apprendront de leurs compagnes la meilleure manière de donner des soins. Les paroles, le pharisaïsme, la louange du moi abondent, mais tout cela ne gagnera jamais une âme au Sauveur. Un amour pur, sanctifié, semblable à celui qu'a manifesté le Christ au cours de son ministère, est un parfum sacré. Comme celui de Marie, qui a brisé un vase pour oindre les pieds de son maître, il remplira toute la maison. L'éloquence, la connaissance de la vérité, les talents, avec l'amour, tout cela est précieux. Mais les plus grands talents ne sauraient remplacer l'amour. Avec l'amour qui procède du cœur, l'amour est le fondement de toute piété. Quelle que soit notre dévotion, nous n'aimons pas vraiment Dieu si nous n'aimons pas nos frères d'une manière désintéressée. Souvenons-nous que nous ne parviendrons jamais à la possession de cet esprit en essayant d'aimer les autres, car ce qu'il nous faut, c'est l'amour du Christ dans notre cœur. Le moi étant absorbé par lui, l'amour jaillira spontanément. On réalise vraiment un caractère chrétien quand on se sent constamment poussé à venir en aide aux autres et quand la lumière céleste inonde le cœur et se reflète sur le visage. Il est impossible qu'un cœur où réside Jésus soit dépourvu d'amour. Si nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier, nous aimerons aussi tous ceux pour lesquels son Fils est mort. Nous ne pouvons entrer en contact avec Dieu sans entrer en contact avec l'humanité, car la divinité et l'humanité se trouvent combinées en celui qui siège sur le trône de l'univers. Dès que nous sommes en rapport avec le Christ, nous sommes aussi unis à nos semblables par les chaînes d'or de l'amour. C'est alors que se manifestent dans notre vie la piété et la tendresse du Sauveur. Nous n'attendons pas que les malheureux et les nécessiteux viennent à nous. Nous n'avons pas besoin d'être exhortés à la charité. Il nous est tout aussi naturel de leur venir en aide qu'il l'était au Christ de se rendre de ville en ville pour faire le bien. L'action du Saint-Esprit se manifeste là où il y a un cœur débordant d'amour et de sympathie, éprouvant un besoin irrésistible de se sacrifier pour les autres afin de les ennoblir. L'amour et la sympathie chrétienne gagnent les cœurs. Le Sauveur s'adressait aux publicains, aux pécheurs, aux proscrits, à ceux qu'on méprisait, et il les suppliait de venir à lui. Les seuls qui n'avaient pas son approbation étaient les propres justes qui, se tenant orgueilleusement à l'écart, considéraient les autres avec mépris. Aimer comme aimait le Christ. L'amour inspiré par celui que nous avons pour Jésus nous fera voir dans toute âme, riche ou pauvre, un trésor d'une valeur inestimable. Le monde est peu de choses comparé à la valeur d'une seule âme. L'amour de Dieu envers l'homme dépasse notre compréhension. Il est infini. Et l'agent humain qui est participant de la nature divine aimera comme le Christ a aimé, travaillera comme il a travaillé. Il y aura en lui une compassion et une sympathie naturelle qui ne feront jamais défaut. C'est l'esprit qui doit exister dans la vie de chaque croyant. Cet amour ne peut se conserver pur et saint que s'il découle de celui que nous éprouvons pour le Christ et que fortifie une communion quotidienne avec Dieu. Toute froideur de la part des chrétiens est un abandon de la foi. Mais cet esprit sera adouci chez les disciples du Christ par le baume de son amour. Ceux-ci obéiront naturellement à l'injonction « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Priez pour avoir des cœurs compatissants. Nous pouvons être assurés que le Seigneur sera avec nous si nous croyons en lui, si nous faisons sa volonté, en renonçant au « moi », en marchant dans l'humilité. Priez pour qu'il vous donne un cœur de chair, un cœur qui peut compatir à la tristesse des autres, qui peut être touché par leur malheur. Priez pour qu'il vous donne un cœur qui ne restera pas insensible aux besoins de la veuve ou de l'orphelin. Priez afin d'avoir des entrailles de miséricorde envers le pauvre, l'infirme et l'opprimé. Priez pour que vous puissiez aimer la justice et haïr le vol. Ne faites aucune différence en accordant vos faveurs, si ce n'est pour prendre en considération le cas des nécessiteux et des déshérités. Alors vous pourrez être au bénéfice des déclarations du chapitre 58 d'Ésaïe. Parlez de courage. Ne soyez jamais, non jamais, de ces cœurs durs, froids, insensibles, qui condamnent. Ne perdons jamais l'occasion de dire un mot d'encouragement, de communiquer la flamme de l'espérance. Lorsque vous travaillez en faveur de ceux qui ont contracté de mauvaises habitudes, tournez leur regard vers Jésus et les gloires célestes au lieu de les pousser au désespoir. Vous réussirez bien mieux ainsi à sauver les corps et les âmes de ces malheureux qui se sentent abandonnés et, apparemment, sans espérance, qu'en les menaçant des terreurs de l'enfer. Le blâme n'a jamais sauvé personne. Il est toujours humiliant d'être repris. Que nul n'ajoute à la répréhension l'amertume d'une censure inutile. Le blâme n'a jamais corrigé personne. Il a au contraire endurci bien des cœurs, en les empêchant de reconnaître la faute commise. Des dispositions affectueuses, une attitude aimable et bienveillante peuvent sauver le pécheur et couvrir une multitude de péchés. Cultivez l'amour de l'hospitalité, pensez à votre salut éternel, réveillez-vous et commencez à répandre la bonne semence. Ce que vous sèmerez, vous le récolterez aussi. Le temps de la moisson est proche, la grande moisson où vous récolterez ce que vous avez semé. Cette moisson viendra sûrement un jour. Aujourd'hui, c'est l'époque des semailles. C'est le moment d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Je vous en supplie, mes frères, revenez de votre froideur, cultivez l'amour de l'hospitalité, cet amour qui vous poussera à venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Retrouvez l'esprit du bon samaritain. Il est rare de trouver aujourd'hui dans nos églises l'esprit du bon samaritain. Beaucoup de nécessiteux ont été négligés. On a passé outre, comme le prêtre et le lévite devant ce blessé qui gisait à demi-mort sur la route. On n'a pas pris soin de ceux qui avaient besoin de la puissance du divin guérisseur. On n'a pas pansé leurs blessures. Un bon nombre se sont comportés comme s'il leur suffisait de savoir que Satan avait tendu ses pièges pour séduire une âme. Ils sont rentrés chez eux et n'ont plus pensé à la brebis perdue. Il est évident que ceux qui manifestent un tel esprit ne sont pas participants de la nature divine. Ils se rangent avec les ennemis de Dieu. La sympathie aussi bien que la charité. Il m'a été montré que parmi ceux qui acceptent la vérité présente, il en est beaucoup dont le caractère a besoin d'être transformé. Tous ceux qui se disent chrétiens devraient s'examiner eux-mêmes et voir s'ils sont aussi bien considérés par leurs semblables qu'ils aimeraient l'être. Alors on verrait en eux une reproduction de l'image divine. Le Seigneur est honoré par nos actes de miséricorde, par l'intérêt que nous portons aux déshérités et à ceux qui sont dans la détresse. La veuve et l'orphelin ont besoin de recevoir plus que notre charité. Il leur faut de la sympathie, des paroles réconfortantes et une situation où ils pourront apprendre à subvenir à leurs besoins. Tout ce que nous ferons pour eux, c'est comme si nous le faisions au Christ. En venant en aide aux malheureux, nous suivons l'exemple du Sauveur. Il ne refusa jamais de s'occuper de ceux qui avaient commis des erreurs. Ses œuvres de miséricorde s'étendaient à toutes les classes de la société. Il faisait du bien aux injustes comme aux justes. Il les délivrait de leurs maladies et leur donnait des instructions quand, humblement, ils le sollicitaient. Ceux qui se réclament du nom du Christ doivent lui ressembler par des actes de bonté et de miséricorde. Ce n'est qu'au jour du jugement que l'on saura tout le bien qui a été accompli en cherchant à suivre l'exemple du Sauveur. La bonté, la clé de l'évangélisation. Si nous voulions nous humilier devant Dieu, devenir aimables, courtois et compatissants, il se produirait sans conversion à la vérité, là où il ne s'en produit qu'une aujourd'hui. Chapitre 11. Comment faire des visites? Gagnez l'amitié de vos voisins. Visitez vos voisins les uns après les autres et efforcez-vous de gagner leur cœur par votre dévouement et votre affection. Sympathisez avec eux, priez pour eux et faites-leur du bien à l'occasion. Si vous le pouvez, réunissez-en quelques-uns et lisez ensemble la parole de Dieu. Venez en aide aux plus nécessiteux. Partout, autour de vous, il y a des malheureux qui ont besoin d'entendre vos paroles d'affection, de tendresse et vos humbles prières. D'aucuns souffrent cruellement de dénuement, d'autres de maladie, de chagrin, de découragement, de mélancolie. Comme Job, ayez des yeux pour les aveugles et des jambes pour les paralytiques. Intéressez-vous à leur sort, cherchez à savoir ce dont ils ont le plus besoin et procurez le leur. Occupez-vous d'abord de leurs besoins temporels, soulagez leurs souffrances. C'est ainsi que vous trouverez le chemin de leur cœur. Jetez-y alors la bonne semence de la vertu et de la religion. Un contact persuasif. Manifestez de la bonté, de l'amabilité, du courage et de l'amour pour le Christ. Aucun langage humain ne saurait dire l'influence exercée par la prédication de la parole et le Saint-Esprit, ni faire connaître ce que peuvent communiquer à notre esprit borné les bénédictions de Jésus de Nazareth.
Soyez compréhensifs, c'est une œuvre délicate que la cure d'âme. Seul celui qui peut lire dans les cœurs sait comment amener les hommes à la repentance. Lui seul nous donnera la sagesse nécessaire pour conduire au pied de la croix ceux qui se perdent. Si, dans votre orgueil, il vous arrive de dire « Je suis plus saint que toi », quelle que soit la logique de votre raisonnement ou la véracité de vos paroles, vous ne toucherez jamais le cœur de votre interlocuteur. Il n'y a que l'amour du Christ, manifesté dans les paroles et dans les actes, qui puisse opérer ce miracle. Les préceptes ou les arguments n'aboutiraient à rien. Manifestez une chaude sympathie. Montrons plus de sympathie chrétienne. non seulement envers les hommes qui nous semblent irréprochables, mais encore envers ceux qui souffrent, luttent, tombent souvent dans le péché et se repentent, qui succombent à la tentation et se découragent. Émus de compassion devant la faiblesse de nos semblables, à l'instar de notre grand prêtre Jésus-Christ, approchons-nous d'eux. Travaillons de manière à faire tomber les préjugés. Frères et sœurs, visitez les personnes de votre entourage. Efforcez-vous de gagner leur cœur par la sympathie et l'amabilité. Veillez à dissiper les préjugés plutôt qu'à les créer. Souvenez-vous que ceux qui possèdent la connaissance de la vérité pour notre époque et qui néanmoins se bornent à travailler dans leurs églises, se refusant à le faire chez leurs voisins inconvertis, auront à répondre d'un devoir non accompli. Entrez dans les maisons quand vous le pouvez. Allez trouver les gens chez eux. N'attendez pas qu'ils viennent à vous. Trois étapes importantes en allant dans les maisons. Ce qui importe, c'est de convaincre les âmes de la vérité. On y arrive plus facilement par des efforts personnels, en allant trouver les gens chez eux, en priant avec eux et en leur expliquant les Écritures. Importance d'une poignée de main. La façon dont vous abordez les gens que vous visitez a une grande importance. Vous pouvez, en saluant quelqu'un, lui serrer la main de manière à gagner immédiatement sa confiance, ou au contraire, si froidement que cette personne pensera que vous ne vous intéressez pas du tout à elle. Nécessité de la politesse chrétienne. On rencontre bien des gens qui voudraient être chrétiens. Un travail s'opérera chez eux, dans la mesure où l'Esprit de Dieu sera avec nous. Nous nous rendrons compte alors que l'on gagne des âmes, non par notre habileté, mais par l'Esprit Saint. Néanmoins, la capacité et la puissance que nous avons reçues d'en haut doivent être mises à réquisition. Ne soyons pas toujours des novices, sachons nous conduire dignement et pratiquer la politesse chrétienne. Celle-ci nous est nécessaire dans tout ce que nous faisons. Efforçons-nous de corriger les défauts de notre caractère. Travaillons avec humilité, c'est le meilleur moyen d'y parvenir. Pouvoir de la courtoisie. La pratique de la courtoisie et la décision de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on vous fît suffirait pour faire disparaître la moitié des maux qui affligent notre société. C'est de Satan que vient la cupidité. Jésus donne aux siens une charité qui ne cherche pas son intérêt. Notre comportement à l'égard des pauvres. Ne donnez pas aux pauvres l'impression que vous les visitez par condescendance. Parlez-leur comme s'ils étaient sur le même niveau social que vous-même. Ils n'ont que peu de lumière, peu de joie. Faites en sorte que leur cœur en soit rempli. Nous devons manifester la tendre sympathie de Jésus-Christ. Ainsi, nous obtiendrons leur confiance. Que notre mise soit modeste, de façon qu'ils aient le sentiment que nous sommes leurs égaux et se croient dignes du salut en Jésus-Christ. Frères et sœurs, recherchons la meilleure méthode de gagner des âmes. Nous pourrons ainsi former des ouvriers pour le Seigneur dans chaque église. Ayez du tact comme le Christ. Il dissipait avec tact les préjugés et retenait l'attention de ses auditeurs par des illustrations. Il gagnait ainsi les cœurs. Parlez de courage. Ne prononcez aucune parole qui fasse la joie de Satan. Parlez de la bonté et de la puissance du Sauveur, d'espérance, de confiance et de courage. C'est aussi facile que d'énumérer ses plaintes. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Allez droit au but. Quand vous entrez dans une maison, ne parlez pas de choses futiles. Allez droit au but et dites à vos hôtes que vous désirez qu'ils aiment Jésus, car Jésus les a aimés le premier. Donnez-leur des imprimés et invitez-les à les lire. S'ils se rendent compte que vous êtes sincères, ils apprécieront ce que vous faites. On peut toucher les cœurs les plus endurcis. Approchez-vous d'eux avec simplicité, sincérité et humilité. C'est ainsi que vous atteindrez les âmes pour lesquelles le Christ est mort. Parlez du Christ dans l'intimité du foyer. À tous ceux qui travaillent avec le Christ, je voudrais dire, partout où vous le pouvez, pénétrez dans les foyers, saisissez-en l'occasion. Prenez votre Bible et faites connaître les grandes vérités qu'elle contient. votre succès ne dépendra pas tellement de vos connaissances et de vos talents, mais surtout de votre aptitude à trouver le chemin des cœurs. En pénétrant dans les foyers, vous pourrez changer le cours des pensées plus facilement que par le discours le plus habile. Faire connaître le Christ dans chaque famille ou dans de petites assemblées réunies dans un local privé réussit souvent davantage à gagner les âmes à Jésus que des sermons prêchés en plein air à la foule mouvante, ou même dans des salles de conférences ou des églises. Racontez comment vous avez trouvé Jésus, visitez vos voisins et intéressez-vous à leur salut. Employez toutes vos énergies spirituelles. Dites à ceux que vous visitez que la fin de toute chose est proche. Le Seigneur Jésus-Christ ouvrira la porte des cœurs et produira sur les esprits des impressions durables. Cherchez à arracher hommes et femmes à leur insensibilité spirituelle. Dites-leur de quelle manière vous avez trouvé Jésus et quel a été votre bonheur depuis le jour où vous êtes entré à son service. Dites-leur quelle bénédiction vous recevez lorsque vous vous asseyez au pied du Sauveur et apprenez les précieuses leçons contenues dans sa parole. Parlez-leur des joies qu'on éprouve dans la vie chrétienne. Vos paroles chaudes et ferventes leur donneront la conviction que vous avez trouvé la perle de grand prix. Que vos paroles gaies et encourageantes montrent que sûrement vous avez trouvé la voie la plus excellente. Voilà du travail missionnaire authentique et qui, s'il est accompli, fera que plusieurs se réveilleront comme d'un sommeil. Parlez du Christ et de son merveilleux amour. Il y a de nombreuses âmes qui cherchent la lumière, afin d'obtenir l'assurance et la force qu'elles n'ont pu trouver. Il faut aller les voir et leur parler avec patience et avec persévérance. Demandez avec ferveur à Dieu qu'il vous aide. Parlez-leur de Jésus, qui est pour vous un sauveur personnel, de son amour incomparable, de sa grâce salvatrice. À moins que ces personnes ne vous le demandent, ne parlez pas de doctrine, mais de la parole, de la justice du Christ, dont nous avons tous besoin pour être sauvés. Que tout ce que vous dites démontre que vous connaissez Jésus. Parlez de sa grâce qui sauve et purifie, de sorte que ceux pour lesquels vous travaillez puissent, par la contemplation, être transformés à l'image divine. La chaîne qui descend du trône de Dieu est assez longue pour atteindre les profondeurs de l'abîme du péché. Dites aux pécheurs qu'il y a un Sauveur qui pardonne et qui intercède auprès de Dieu en leur faveur. Il est capable de les retirer du péché, afin qu'ils puissent être reconnus comme des enfants de Dieu et recevoir avec le Christ un héritage immortel. Ils peuvent entrer en possession d'une vie qui se mesure à celle de Dieu. La puissance du chant sacré. Ceux qui sont doués pour le chant ont un rôle à jouer. Le chant est l'un des moyens les plus efficaces pour faire pénétrer la vérité dans les cœurs. C'est souvent par le chant des cantiques que la repentance et la foi ont été obtenues. Que les membres d'Église, jeunes et vieux, apprennent à chanter pour aller proclamer le dernier message au monde. S'ils restent humbles, les anges de Dieu les accompagneront et leur enseigneront à proclamer l'Évangile pour notre époque. Les cœurs sont touchés par des cantiques simples. Apprenez à chanter des cantiques simples. Cela vous aidera à travailler de maison en maison et les cœurs seront touchés par l'influence du Saint-Esprit. On entendait souvent le Christ entonner des chants de louanges, et cependant j'ai ouï dire par certaines personnes « Le Christ n'a jamais souri ». Comment commettre une erreur pareille? Il y avait de la joie dans le cœur du Sauveur. L'Écriture nous dit qu'il y a de la joie parmi les anges pour un seul pécheur qui se repent, et que le Seigneur lui-même fait de l'Église sa joie.
Témoigner de la sympathie et adresser des appels personnels. Il peut résulter d'entretiens personnels avec vos amis et vos voisins beaucoup plus de bien que vous ne le pensez. C'est parce que l'on a négligé cette sorte de travail qu'un grand nombre d'âmes pour lesquelles le Christ est mort se perdent. On arrive ainsi à toucher les cœurs bien mieux que par de grandes conférences. Si l'on combine les deux, avec la bénédiction de Dieu, on peut accomplir un travail plus efficace. Mais si vous ne pouvez en faire qu'un seul, choisissez de préférence les études bibliques dans les maisons. Adressez des appels personnels et entretenez-vous familièrement avec les gens qui vous reçoivent. Ne parlez pas de choses quelconques, mais des grands thèmes de la rédemption. Que l'on puisse se rendre compte que vous vous intéressez au salut des âmes.
Efficacité du contact personnel. Mes frères dans le ministère, ne pensez pas que la seule œuvre qui vous incombe, la seule méthode par laquelle vous atteindrez les âmes, soit de faire des conférences. Le meilleur travail que vous puissiez accomplir, c'est d'enseigner, d'éduquer. Toutes les fois que vous pouvez avoir l'occasion d'agir de la sorte, allez dans quelques familles et laissez les gens vous poser des questions. Répondez-leur avec patience, avec humilité. Continuez ce travail en relation avec vos conférences. Prêchez moins et enseignez davantage par les études bibliques et la prière dans les familles ou dans de petits cercles. Avec une voix à l'accent pathétique, que la voix exprime la sympathie, la tendresse. La voix du Christ faisait toujours une forte impression. Nous pouvons, par des efforts persévérants, cultiver notre voix, la rendre douce. Demandons au Seigneur qu'il nous donne une voix convertie, une langue convertie, une sympathie à la mesure de celle du Christ. C'est grâce à la sympathie et à la tendresse que nous pouvons gagner les âmes. Si l'on vous ferme la porte au nez, que faut-il faire ? Mais, dira quelqu'un, supposez que nous ne puissions pas pénétrer dans certaines maisons, parce que les gens sont hostiles à la vérité que nous présentons. Devons-nous nous en tenir là ? Nullement. Même si l'on vous fermait la porte au nez, ne partez pas indigné. Ne cessez pas vos efforts pour sauver ces gens-là. Demandez au Seigneur avec foi de vous aider à les atteindre. Réfléchissez aux moyens que vous pourriez employer pour arriver jusqu'à eux. Si vous ne parvenez pas à les voir personnellement, adressez-leur un message silencieux de la vérité. Il y a tant d'orgueil dans le cœur humain que nos imprimés arriveront mieux que nous-mêmes à se faire admettre. Comment le Christ abordait les gens ? Nous pouvons apprendre beaucoup par la manière dont le Christ abordait les gens. Dans le récit évangélique, nous lisons comment il travaillait pour toutes les classes de la société, comment il s'y prenait pour parler du salut, dans les villes et dans les villages, aux milliers de personnes qui se pressaient autour de lui pour écouter ses enseignements. Les paroles du Maître étaient claires et distinctes, pleines de sympathie et de tendresse. Il leur donnait l'assurance que ce qu'il disait était la vérité. Ce qui amenait de si nombreuses foules autour de lui, c'était la simplicité et le sérieux qui caractérisaient son travail et ses paroles. Rien de mécanique dans le travail. Tous ceux qui s'engagent dans un travail personnel devraient prendre garde de ne pas le faire mécaniquement, de même que le prédicateur qui prêche la parole. Il faut constamment apprendre. Chercher de nouvelles méthodes. Je m'adresse aux chrétiens qui vivent dans nos grandes villes. Dieu vous a fait dépositaire de la vérité, non pour que vous la gardiez égoïstement, mais pour que vous puissiez en faire part à d'autres. Vous devez aller de maison en maison comme de fidèles dispensateurs de la grâce du Christ. Tout en travaillant, cherchez de nouvelles méthodes, de nouveaux plans, sans vous lasser. Vos facultés intellectuelles arriveront ainsi à se développer. La tiédeur, la négligence dans l'accomplissement du devoir est une injure envers l'âme pour laquelle le Christ a donné sa vie. Si nous voulons découvrir les perles qui se trouvent dans les décombres des villes, il nous faut être prêts à accomplir l'œuvre exigée par le Maître. Nouvelle vie et nouveaux plans. Il nous faut des hommes qui prient le Seigneur pour obtenir la sagesse, qui apportent une vie nouvelle dans les vieilles méthodes de travail et peuvent inventer de nouveaux plans pour éveiller l'intérêt des membres d'Église afin d'atteindre les hommes et les femmes du monde. Par le pouvoir de la persuasion, la prière et l'amour, les pauvres doivent être aidés, les malades soignés, les affligés et ceux qui pleurent consolés, les ignorants instruits, les inexpérimentés conseillés. Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent, nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Grâce au pouvoir de la persuasion, de la prière, de l'amour de Dieu, cette œuvre ne sera pas, ne pourra pas être stérile. Chapitre 12. L'efficacité des visites évangéliques. Le rôle des visites évangéliques dans l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Comment la grande œuvre du message du troisième ange peut-elle s'accomplir ? Par des efforts persévérants, individuels, par des visites à domicile. L'un des moyens les plus efficaces pour communiquer la lumière, c'est l'effort personnel. Dans le cercle familial, au foyer de notre voisin, au chevet du malade, dans le calme, vous pouvez lire les Écritures et parler de Jésus et de la vérité.
C'est ainsi que vous répandrez la précieuse semence qui lèvera et portera du fruit. Cela paie un millier de fois. Frères et sœurs, réveillez-vous. Ne craignez pas d'accomplir de bonnes œuvres. Ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable si vous ne vous relâchez pas. Cultivez l'amour de l'hospitalité, l'amour qui nous pousse à nous dévouer pour autrui. Il est possible que vous ayez eu des déceptions, que vous vous soyez occupé de personnes qui se sont montrées indignes de votre charité et que vous ayez été découragé de venir en aide aux nécessiteux. Je place Jésus devant vous. Une âme arrachée aux griffes de Satan, une âme secourue, une âme encouragée, voilà qui vous récompensera de tous vos efforts. C'est à vous que Jésus a dit « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ne devons-nous pas accomplir joyeusement tout ce que nous pouvons pour imiter la vie de notre divin Sauveur ? Une œuvre vitale pour notre destinée éternelle. Aussitôt que vous vous serez mis à l'œuvre, vous aurez près de vous des auxiliaires invisibles. Les anges du ciel se tenaient près du Samaritain quand ils pensaient le voyageur blessé. Des anges de Dieu sont aux côtés de tous ceux qui font sa volonté en exerçant un ministère d'amour envers leurs semblables. Vous pouvez compter sur la collaboration étroite du Christ lui-même. Il est celui qui guérit, et dès que vous travaillerez sous sa direction, vous verrez de grands résultats. De votre fidélité à cet égard dépend non seulement la prospérité de vos semblables, mais encore votre destinée éternelle. Le Christ les accompagne dans les maisons. Le Seigneur désire que la vérité soit à la portée des gens, et cela ne peut être réalisé que par un travail personnel. L'ordre suivant est vaste. Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Il y a là une œuvre qui n'a pas encore été commencée. Que les ouvriers du Seigneur enseignent la vérité dans les familles, se familiarisent avec ceux pour lesquels ils travaillent. S'ils collaborent ainsi avec Dieu, il les revêtira de puissance spirituelle. Le Christ les guidera dans leur œuvre, il les accompagnera dans les maisons et leur inspirera les paroles qu'ils devront prononcer afin qu'elles pénètrent profondément dans le cœur des auditeurs. Le Saint-Esprit ouvrira les esprits pour qu'ils reçoivent les rayons qui procèdent de la source de toute lumière. Apportez l'espérance aux gens. Il est impossible pour celui qui croit au Christ de voir l'œuvre qui devrait être accomplie et de ne rien faire. Jour après jour, nous recevons le baume guérissant de la grâce de Dieu qui doit être apporté à ceux qui sont dans le besoin ou qui souffrent. Les disciples du Christ doivent chercher à connaître les malheurs des pauvres de leur voisinage immédiat et leur donner quelque soulagement. Ceux dont la vie est obscure et peu agréable sont ceux-là même à qui il faut parler d'espérance, car le Christ est leur sauveur. N'y a-t-il pas des croyants qui veulent aller de maison en maison, de famille en famille, et répéter l'ABC de la véritable expérience chrétienne ?
L'exemple d'Ellen G. White. Je me souviens du jour où, dans mon enfance, la puissance régénératrice du Seigneur vint sur moi. Je désirais que tous puissent recevoir la même bénédiction, et je ne pouvais trouver la paix avant d'avoir parlé de mon expérience. Je commençais par mes jeunes amies. J'allais chez elles pour leur dire combien le Sauveur m'était précieux, comment je voulais le servir, et comment je désirais aussi qu'elles le servent. Je leur demandais « Ne voulez-vous pas vous mettre à genoux et prier avec moi ?» Quelques-unes le firent tandis que d'autres restaient assises sur leurs chaises. Mais avant de nous relever, toutes s'étaient agenouillées et nous avons prié ensemble pendant plusieurs heures de suite, jusqu'à ce que la dernière dise « Je crois que Jésus a pardonné mes péchés ». Parfois le soleil commençait à faire son apparition dans le ciel avant que nous cessions la lutte. Il y a une grande puissance en Jésus-Christ. Les premières œuvres donnent déjà des résultats. La raison pour laquelle tant de chrétiens ne réussissent pas, c'est qu'ils se confient beaucoup trop en eux-mêmes et ne sentent pas la nécessité de demeurer en Christ quand ils vont chercher et sauver celui qui se perd. Ils accompliront peu de choses jusqu'à ce qu'ils aient l'esprit du Christ et enseignent la vérité telle qu'elle est en Jésus. L'atmosphère de l'Église est glaciale. Son esprit est tel que hommes et femmes ne peuvent pas comprendre l'exemple de la piété primitive. Son premier amour s'est refroidi, et à moins qu'elle ne soit baptisée du Saint-Esprit, qu'elle ne se repente et fasse ses premières œuvres, son chandelier sera ôté de sa place.
Les premiers travaux missionnaires de l'Église eurent lieu lorsque les croyants allèrent trouver leurs amis, leurs parents, leurs connaissances, et leur racontèrent avec un cœur débordant d'amour l'histoire de Jésus, ce qu'il était pour eux et ce qu'ils étaient pour lui. « Vous êtes une lettre, faites-la connaître », l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Corinthe. « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, connue et lue de tous les hommes. En chacun de ses enfants, Jésus envoie une lettre au monde. Si vous êtes son disciple, vous êtes la lettre qu'il envoie à la famille où vous logez, au village, à la rue que vous habitez. Par vous, Jésus désire parler au cœur de ceux qui ne le connaissent pas. Peut-être ne lisent-ils pas la Bible, n'entendent-ils pas la voix qui leur parle dans ses pages, et ne voient-ils pas l'amour de Dieu dans ses œuvres. Mais si vous êtes un véritable représentant de Jésus, il est possible que, par vous, il soit amené à comprendre quelque chose de sa bonté et à l'aimer et le servir. Les imprimés que nous laissons dans les maisons porteront leurs fruits. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Vous serez ainsi préparés à aller de maison en maison pour faire connaître la vérité. Il vous arrivera parfois de trouver que ce travail est très fatigant, mais si vous marchez par la foi, le Seigneur vous précédera et sa lumière brillera sur votre sentier. En entrant dans les maisons de vos voisins pour leur vendre ou leur donner nos imprimés, avec humilité, enseignez-leur la vérité. La lumière du ciel vous accompagnera. Le Seigneur fera de grandes choses pour nous si nous restons humbles et nous tenons à ses pieds. Plus d'un millier d'âmes se convertiront en un jour, dont la plupart attribueront leur première conviction à la lecture de nos imprimés. Le meilleur moyen pour atteindre les âmes, à l'ombre même des maisons de Dieu, se trouvent des multitudes de pécheurs qui ne connaissent pas la vérité et n'ont point d'espérance. Dans chaque ville, dans chaque lieu où des chrétiens se rencontrent pour adorer Dieu, il y a des hommes, des femmes et des enfants qui doivent être ajoutés au troupeau. Un grand nombre d'entre eux n'ont jamais entendu parler de la parole de Dieu. Qui veut se soucier de leur salut? Qui veut apprendre du grand docteur que le meilleur moyen d'atteindre les âmes est un appel direct, personnel aux pécheurs, à ceux qui sont morts dans leurs péchés, pour qu'ils contemplent le Rédempteur crucifié et qu'ils vivent. Chrétiens, que vos cœurs débordent de sympathie et d'amour pour ceux qui ne connaissent pas la vérité. Situation adaptée à nos talents. Si ceux qui enseignent sa parole le désirent, le Seigneur les mettra en rapport avec le peuple. Il les dirigera dans les maisons de personnes qui sont dans le besoin et cherchent la vérité, où ils trouveront les situations les mieux adaptées à leurs talents. Les talents de tous sont nécessaires. Le Seigneur a une place pour chacun dans son vaste plan. Il ne donne que les talents nécessaires. Il en accorde à tous les hommes et c'est à eux de les développer. Même si un talent est petit, Dieu peut l'utiliser. Il fera l'œuvre à laquelle il est destiné. Les talents de l'humble villageois sont nécessaires pour le travail de maison en maison. Ils peuvent accomplir davantage en ce domaine que les dons les plus brillants. Celui qui emploie fidèlement son unique talent recevra sa récompense aussi bien que celui qui en a cinq. Dieu récompense ses serviteurs qui ont travaillé selon les capacités qu'il leur avait accordées. Comment trouver le temps de visiter ses voisins? Si les jeunes gens et les jeunes filles voulaient se consacrer solennellement au Seigneur, s'ils voulaient pratiquer le renoncement au foyer familial, soulageant leur mère fatiguée, chargée de soucis, quel changement se produirait dans nos églises? La mère trouverait le temps de faire des visites à ses voisins. Quand l'occasion se présenterait, les enfants pourraient l'aider en rendant ça et là de petits services, s'ils sont trop jeunes pour faire mieux. C'est ainsi que des milliers de foyers pauvres et nécessiteux seraient visités. On pourrait y placer des livres sur la santé et la tempérance. La diffusion de ces livres est une œuvre importante, car ils contiennent de précieux conseils pour le traitement des maladies, ce qui est une grande bénédiction pour ceux qui ne peuvent payer la visite du médecin. N'attendez pas qu'on vous fixe votre devoir. N'attendez pas qu'on vous fixe votre devoir. Ouvrez les yeux et voyez ce qui est autour de vous. Faites connaissance avec les déshérités, les affligés et les nécessiteux. Ne vous dérobez pas, ne cherchez pas à ignorer leurs besoins. Qui donnera la preuve qu'il pratique la religion pure et sans tache dont parle Jacques? Allez travailler, que vous en ayez envie ou non, mes frères et sœurs. Désirez-vous rompre le charme qui vous retient? Voulez-vous sortir de cette paresse qui ressemble à la torpeur de la mort? Allez travailler, que vous en ayez envie ou non. Faites un effort pour gagner des âmes à Jésus et à la connaissance de la vérité. un tel travail sera pour vous à la fois un stimulant et un tonique. Il vous réveillera et il vous fortifiera. Par l'exercice, vos facultés spirituelles acquerront plus de vigueur, de sorte que vous pourrez, avec un succès plus grand, travailler à votre propre salut. La stupeur de la mort spirituelle paralyse beaucoup de ceux qui prétendent croire au Christ. Faites tous vos efforts pour les réveiller. Avertissez, suppliez, admonestez. Priez pour que l'amour attendrissant de Dieu puisse réchauffer et adoucir ces natures de glace. Même si ces personnes refusent d'écouter, votre travail ne sera pas inutile. Dans votre effort pour faire du bien aux autres, vos âmes seront bénies. Créez une atmosphère céleste, visitez les malades, réconfortez les pauvres et les affligés pour l'amour du Christ. Vous recevrez ainsi les brillants rayons du soleil de justice, et votre attitude révélera la paix qui réside dans une âme. Le visage des hommes et des femmes qui parlent avec Dieu, pour qui le monde invisible est une réalité, reflète la paix d'en haut. Ces croyants portent avec eux la douce atmosphère du ciel et inspirent des actes de bonté. Leur influence est telle qu'elle gagne des âmes au Christ. Si tous pouvaient comprendre et suivre la parole de Dieu, quelle paix, quel bonheur, quelle santé corporelle, quelle paix de l'âme il en résulterait. Une chaude atmosphère, faite de bonté, d'amour, de tendresse chrétienne, ne saurait être surestimée. L'amour a plus de valeur que l'or et l'argent, que les pierres précieuses, et rend les agents humains semblables à celui qui vécut non pour lui-même, mais pour les autres. La vision de centaines et de milliers d'adventistes visitant des familles, dans les visions de la nuit, il me fut montré un grand mouvement de réforme au sein du peuple de Dieu. Beaucoup louaient le Seigneur, les malades étaient guéris, et d'autres miracles s'opéraient. On remarquait un esprit de prière dans le genre de celui qui se manifestait avant le grand jour de la Pentecôte. Des centaines et des milliers de personnes se rendaient dans les familles et leur expliquaient les Écritures. Les cœurs étaient touchés par la puissance du Saint-Esprit et on voyait de véritables conversions. De tous côtés, des portes s'ouvraient à la proclamation de la vérité. Le monde semblait illuminé de la lumière divine. De grandes bénédictions étaient accordées aux enfants de Dieu humbles et sincères. J'entendais des actions de grâce et des louanges. On se serait cru en 1844. Chapitre 13. Organisation de l'Église pour le ministère de la bienfaisance. Le dessein de Dieu dans l'organisation de l'Église, l'Église du Christ sur la terre, a été organisé pour des buts missionnaires, et le Seigneur désire la voir tout entière, faire des plans et trouver les moyens nécessaires pour que grands et petits, riches et pauvres, puissent entendre le message de la vérité. L'unité dans l'exercice de la charité. Où que la vérité ait été proclamée et que des gens se soient convertis, ils doivent s'unir sans tarder pour exercer la charité. Où que la Bible ait été présentée, une œuvre de piété pratique doit commencer. Partout où une église a été organisée, un travail missionnaire doit être accompli pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin ou qui souffrent. Un appel pour trouver des conducteurs. À moins d'avoir des hommes qui trouvent le moyen de tirer parti du temps, de la force et des cerveaux des membres d'église, il restera beaucoup à faire. Le hasard ne saurait suffire pour cette tâche. Il faut, dans l'église, des croyants qui soient capables d'organiser un travail pratique pour que des jeunes hommes et des jeunes femmes s'occupent des besoins de l'humanité et du salut de l'âme des hommes, des femmes, des adolescents et des enfants. L'église est une école. Chaque paroisse doit être une école de travailleurs chrétiens. Ses membres apprendront à lire l'Écriture dans les familles, à servir de catéchistes, à secourir les pauvres, à soigner les malades et à œuvrer en faveur des inconvertis. Il devrait y avoir des cours d'hygiène, de cuisine et d'autres encore, où l'on m'enseignerait les différentes branches du service chrétien. Mais l'enseignement seul ne suffit pas, il faut aussi un travail actif sous la direction de maîtres compétents. Ceux-ci donneront l'exemple en s'occupant des nécessiteux, d'autres s'efforceront de les imiter. Un seul exemple a plus de valeur que beaucoup de préceptes. Préparer notre jeunesse pour un service pratique. Le grand docteur collabore avec tous ceux qui s'occupent de soulager les souffrances de l'humanité. Enseignez aux élèves à faire une application pratique des leçons qu'ils ont reçues. En présence de la misère et du profond dénuement de ceux dont ils s'occupent, ils seront émus de compassion. Leurs cœurs seront touchés et subjugués par les principes révélés dans la parole de Dieu. le grand médecin prendra part à tout ce qui se fait en faveur de l'humanité souffrante pour rendre la santé au corps, la lumière et la guérison à l'âme. Il faut examiner ce qui pourrait être fait pour instruire les élèves en vue d'un travail missionnaire pratique. Enseigner à faire un travail missionnaire pratique. À l'occasion de nos camp meetings annuels, nous ne devons pas perdre de vue la possibilité qui nous est offerte d'enseigner aux frères et sœurs comment faire du travail missionnaire pratique dans leur localité. Dans bien des cas, il conviendrait de confier à des hommes choisis la responsabilité des diverses branches d'instruction au cours de ces assemblées. Que les uns apprennent aux membres à donner des études bibliques et à diriger des réunions familiales. Que d'autres aient la charge d'enseigner les principes de la santé et de la tempérance, ainsi que la manière de soigner les malades. D'autres encore peuvent travailler en faveur de l'œuvre de nos périodiques et de nos livres. Former des groupes missionnaires. Cette question m'a été présentée par celui qui ne peut se tromper. Dans une grande église, former de petits groupes afin de travailler, non seulement en faveur des membres, mais aussi pour les incroyants. Si, dans un endroit, il n'y a que deux ou trois adventistes, qu'ils organisent un groupe missionnaire. Bien unis, animés par l'amour divin, ils s'encourageront mutuellement à marcher de l'avant et chacun sera fortifié et soutenu par ses frères. Des groupes bien organisés dans chaque église. Qu'il y ait dans chaque église des groupes bien organisés pour travailler dans leur voisinage. Oubliez le moi et laissez le Christ vous précéder. C'est lui qui est votre vie et votre puissance. Que cette œuvre soit faite sans délai et la vérité sera comme un levain sur la terre. Lorsque de telles forces seront à l'œuvre dans toutes nos églises, il y aura une rénovation, une réforme, une puissance agissante au milieu d'elles, car les membres accompliront l'œuvre même que Dieu leur a ordonné de faire. Que tous nos membres soient actifs, zélés, pleins de l'enthousiasme de l'esprit et de la puissance de Dieu. C'est l'emploi intelligent des moyens, des capacités et des facultés données par Dieu et consacrées à son service qui vous indiquera les communautés où vous pourrez travailler. Il se peut que vous débutiez modestement dans certains endroits, mais ne vous découragez pas. L'œuvre prendra de l'extension et vous ferez le travail d'un évangéliste. Inspirez-vous des méthodes du Christ, travaillez comme il a travaillé.
Travaillez en donnant un nom à votre association. Pour accomplir son œuvre de salut, Dieu a prévu la coopération de l'homme. Pour cette raison, il désire que l'Église ait une piété plus profonde, un sens plus juste du devoir, une vue plus nette des obligations qui reposent sur elle. Il exige que ses membres soient purs, sanctifiés, actifs. Le travail de bienfaisance leur donne le moyen d'y parvenir, car le Saint-Esprit opère avec tous ceux qui œuvrent pour le Seigneur. Je voudrais dire, continuez à vous dépenser avec tact et intelligence. Demandez à vos compagnons de travailler sous un nom quelconque, afin que vous puissiez vous organiser pour collaborer harmonieusement. Mettez à l'œuvre les jeunes gens et les jeunes filles des églises. Organisez et entraînez la jeunesse pour l'achèvement de l'œuvre. Il existe plusieurs branches de travail dans lesquelles la jeunesse peut trouver des occasions de se dévouer. Organisez-la en groupe pour le service, sa collaboration s'avérera fructueuse. Dans l'achèvement de l'œuvre évangélique, il y a un vaste champ inoccupé. Plus que jamais, il faudra trouver du renfort chez de simples membres d'église. Jeunes et vieux, au cours des années, seront appelés à quitter leur champ, leurs vignobles, leurs ateliers, pour être envoyés par le Maître, afin de proclamer son message. Beaucoup n'auront sans doute pas eu l'occasion de faire des études, mais le Christ voit en eux des qualités qui les rendront capables d'accomplir ses desseins. S'ils mettent leur cœur dans l'œuvre et continuent à se former, ils seront à même de travailler pour lui. En se préparant le mieux possible, des milliers de jeunes et d'autres plus âgés pourront se consacrer à l'œuvre de Dieu. Plusieurs ont déjà répondu à l'appel du Maître, et leur nombre ne cessera d'augmenter. Tous ceux qui s'engagent dans le ministère sont les ouvriers du Seigneur. Aucune autre tâche ne permet aux jeunes de retirer de plus grands bienfaits. Ils collaborent avec les anges, ou plutôt, ils sont des agents humains par lesquels les anges accomplissent leur mission. Ceux-ci parlent par leur voix et travaillent par leurs mains. Et ces hommes, collaborant avec les agences célestes, bénéficient de leur éducation et de leur expérience. Comme système d'éducation, quel cours universitaire peut égaler celui-là? Grâce à l'armée d'ouvriers que notre jeunesse, bien entraînée, pourrait constituer, avec quelle rapidité la bonne nouvelle d'un sauveur crucifié, ressuscité et revenant bientôt, pourrait être portée au monde entier.
C'est dans ce but que l'Église a été organisée. Quelqu'un doit accomplir la mission du Christ. Quelqu'un doit continuer l'œuvre qu'il a commencée sur la terre. Et c'est à l'Église qu'a été confié ce privilège. C'est dans ce but qu'elle a été organisée. Alors pourquoi les membres d'Église n'acceptent-ils pas cette responsabilité ? Certains ont constaté cette grande négligence et ont vu les besoins de ceux qui souffrent ou sont dans le dénuement. Ils ont reconnu dans ces malheureux ceux pour lesquels le Christ a donné sa vie. Leurs cœurs ont été touchés et toutes leurs énergies en ont été stimulées. Ils se sont organisés pour se mettre au travail avec les frères désireux d'annoncer la vérité de l'Évangile à ceux qui vivent dans le vice et l'iniquité, afin qu'ils puissent être libérés d'une vie de dissipation et de péché. Ceux qui se sont engagés dans cette œuvre ont fait ce que le Seigneur leur commandait, et il a accepté leurs travaux. Ce qui a été fait dans ce domaine, chaque adventiste devrait le réaliser avec tout le zèle dont il est capable.